Ça va? Oui? On est vraiment heureux de vivre ces temps avec vous. Comme chaque dimanche, nous louons le Seigneur, mais c'est vrai que ça a une saveur particulière. Même si nous le savons, Noël, la naissance de Jésus, c'est pas le 25 décembre, on peut faire beaucoup de discours là-dessus. Mais c'est une occasion qui nous est donnée de célébrer le Seigneur d'une manière particulière, avec une écoute particulière surtout des gens qui sont loin de Dieu. Comme il a été dit, nous célébrons Noël tous les jours de notre vie. Mais il y a des gens, ils ont une oreille particulière, vous n'avez pas remarqué, pendant ces temps de Noël. Et c'est important pour nous de saisir ce moment pour montrer d'abord que nous sommes heureux que Jésus soit venu sur la terre. Nous savons pourquoi nous le disons. Et puis qu'on puisse partager cette joie. Noël, en fait, ça a pris beaucoup de signification. Et à la base, le mot Noël. Il vient du latin natalis, qui signifie un jour de naissance, et qui est utilisé dans le latin ecclésiastique, et pour parler d'une naissance bien précise, pas une naissance en général, mais la naissance de Jésus. Aujourd'hui, évidemment, le mot a été plus que galvaudé. Dans les dictionnaires, nous avons congé de Noël. Nous avons gâteau de Noël, bûche de Noël, repas de Noël, cadeau de Noël, Père Noël. Tout ça n'a plus rien à voir avec l'origine, vous avez compris, hein. C'est un pape qui a institué la fête de Noël. Ce n'est pas quelque chose qui est biblique, la fête de Noël. Vous ne trouvez nulle part un enseignement dans la Bible qui nous encourage à fêter Noël. On est encouragé à fêter plutôt la Pâque. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si on reste à une belle histoire avec un petit enfant qui est né d'une vierge, oh, c'est extraordinaire, quelle belle histoire. Si on s'arrête là, quel intérêt? Hein? Et en fait, ce pape, il a décidé ce jour-là, parce qu'il y avait, on en parlait avec les ados hier, il y avait une autre fête païenne à ce moment-là, pour le solstice d'hiver. Et donc l'Église catholique qui voulait imposer, c'était sous l'empereur Constantin qui avait décidé que le royaume serait chrétien. C'était le royaume le plus puissant à l'époque, hein, Rome. Donc le pape a pris cette décision pour contrecarrer cette fête, et c'est pour ça qu'elle se situe au 25 décembre. On pourrait débattre longtemps sur cette question, est-ce qu'on doit faire la fête de Noël, est-ce qu'on ne doit pas la faire, etc. Je pense qu'avant, au lieu de partir dans des discussions théologiques ou dans des raisonnements, ce que nous voulons, c'est parler de la bonne nouvelle de Jésus. C'est notre seul message dans cette période. Nous voulons parler de la bonne nouvelle de Jésus. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur un texte de la Bible, une parole qui a été donnée par l'ange au berger, et qui se trouve donc dans les récits bibliques de la Nativité. Donc là, on n'est pas dans les contes, les légendes. On va ouvrir la parole de Dieu, qui est la vérité. Et on va voir ce qui s'est vraiment passé. On a eu l'occasion avec les ados hier de faire un quiz sur Noël avec vrai ou faux. Et on s'est aperçu qu'on a plein de préjugés sur Noël. Mais en fait, quand on regarde dans la Bible, c'est pas du tout ça qui est écrit. Bon, je passe là-dessus. On lit ensemble dans Luc, le meilleur des évangiles, chapitre 2, versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ah, nous, on aura envie de voir des anges apparaître, mais en tous les cas, eux, ils ont eu peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande... Ah, on voit qu'il y a la joie à Colombier ce matin. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande... Ouah. Oh, Lido. Ah, vous transportez les autres avec votre joie. Il n'y a pas photo. Et quel est ce sujet de joie? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Ça fait des siècles qu'on attendait cette venue, qui était dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, dans toutes les typologies, dans tous les symbolismes. Il y a cette annonce de la venue du Messie. Et ça y est, il est là, il arrive. Waouh ! Voilà, ça devait être extraordinaire ces moments qu'ils ont vécu, non ? Vous ne croyez pas ? Amen. Mais regardez comme Dieu, dès le départ, veut marquer une différence entre son royaume et le royaume des hommes. Les anges annoncent le Messie est arrivé, le Sauveur est arrivé. Et nous, on a tout un tas de trucs qui arrivent dans notre tête. On s'attend à quelque chose de tellement grand, de tellement glorieux. Pourtant, la suite du message, ce que précise l'ange, il dit ceci, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Ah ! À quel signe vous allez reconnaître le Messie qui arrive ? Et là, on commence à se dire, « Ouh ! Qu'est-ce que ça va être ?» Et la suite, elle est peut-être décevante. « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Une crèche, vous savez ce que c'est ? Les enfants, vous savez ce que c'est une crèche ? C'est quoi ? Les enfants, j'ai dit. Pas vrai, ça. Et Noah, c'est quoi ? C'est une crèche où il y a les bébés, ouais. Bah oui, enfin, c'est évident. Merci, Noah. Une crèche, c'est une mangeoire, c'est-à-dire quelque chose, un endroit où on mettait le foin pour que les animaux, le bétail, viennent manger. Super, hein, comme berceau. On en rêve tous. Non, les mamans, vous avez rêvé d'avoir votre enfant dans un truc qui sent mauvais, là, de l'étable. Oui, dès le départ, Dieu veut nous montrer que son royaume n'est pas le royaume des hommes. Alors qu'on annonce un grand événement, c'est dans la plus grande simplicité que ces choses arrivent. Alors que nous, on aurait plutôt imaginé Jésus arriver sur des chars de feu, avec de l'or partout, etc. Quelle chose en grande pompe, quoi. Bah oui, c'est le Messie. Et du coup, les hommes ne vont pas reconnaître Jésus comme le Messie. Parce qu'ils s'attendaient à quelqu'un de grand, avec les fastes, les honneurs, quelqu'un qui réponde à leurs besoins matériels. Et leur plus grand besoin à l'époque, c'était d'être libéré de César. Et ils ont dit, ouais, le Messie va nous libérer de César. Et vous lisez le Nouveau Testament et c'est la grande problématique. Parce qu'on a les uns qui parlent de quelqu'un qui va établir un royaume politique et les autres qui parlent, et notamment Jésus, d'un royaume spirituel. Est-ce qu'un royaume spirituel a besoin des fastes ? Le royaume spirituel, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'habits fastueux, mais il y a juste un linge. Il n'y a pas un berceau doré, mais une mangeoire dans une étable. Et en fait, si on réfléchit sur ce qu'on a fait de Noël aujourd'hui, alors qu'au départ, il s'agissait de quelque chose de simple. Célébrer la venue d'un sauveur. Le pape libère. Bon, vous savez que nous, on ne reconnaît pas le pape, mais bon. Il dit qu'il n'a pas eu une si mauvaise idée de dire à un moment donné, on va célébrer la naissance de Jésus. Mais depuis le jour où ils ont commencé à faire ça, jusqu'à aujourd'hui, regardez tout ce qui s'est passé. Et en fait, de la simplicité, on est passé à un Noël de la démesure. À Noël du faste. En fait, j'aimerais que vous reteniez ceci. Ce que Dieu fait est parfait. Ce que les hommes font est imparfait. Tout ce que les hommes font, ils le dénaturent. Vous n'avez pas remarqué ? Ah, on était contents, hein ? l'industrialisation, les progrès de la fin du 19e, du 20e siècle, maintenant le 21e siècle, oh, tous ces progrès, maintenant on n'arrive plus à respirer. La chaleur, la température, on consomme trop. Et à chaque fois on est content, bien après on ne se rend pas compte qu'on a fait quelque chose d'imparfait qui est plein d'effets pervers. Je pense au progrès de la médecine. On est content des progrès de la médecine, mais tout ce qui peut se faire de pas bien. Je pense au clonage. On a une loi qui nous attend sur la fin de vie. On verra ce que tout cela va donner. Les nouvelles technologies, ces portables, ces tablettes, tous ces trucs qu'on a. On se rend compte, et là tout le monde est en train de dire « Attention, attention, les enfants, attention, attention, attention !» Ah mais ça y est, on a lancé le truc, c'est fini. L'homme, tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Au lieu de rester dans la simplicité du Noël biblique, l'homme a fait de Noël une fête de famille. Tiens, une idée. Ah, ça va être une fête de famille. Super, bonne idée, hein. Conséquence, ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont brouillés avec leur famille, vivent ces fêtes de Noël comme un calvaire. Vous êtes conscient de ça ? Vous qui avez la chance d'avoir une famille, pouvoir passer des bons temps dans ces fêtes de Noël, est-ce que vous pensez à ceux qui n'ont pas de famille ? Ceux qui sont seuls ou ceux qui ont une famille, ils vont se faire le réveillon de Noël, mais ça va être tendu de chez tendu. Et ils appréhendent ce moment. L'homme fait de Noël une fête où l'on s'offre des cadeaux. Est-ce que c'est mal de s'offrir des cadeaux ? Moi, j'aime pas quand on m'impose de le faire. Déjà, ça m'énerve. Tel jour, c'est la fête des mères. Tel jour, c'est la fête de ceci. Ça. Toi, tu dois faire un cadeau. Bah oui, mais le cadeau, il faut que ça vienne du cœur. Hein. Ça, c'est l'homme. On doit s'offrir des cadeaux. Et là, on voit tous les enjeux commerciaux, la démesure que cela entraîne et les effets pervers sur les enfants. Excusez-moi de parler de ça. Hein. Mais quand on voit, moi j'ai des petits-enfants, ils ont la chance d'avoir une grande famille. Donc il y a beaucoup de monde de mon côté, du côté de ma fille, et beaucoup de monde du côté de mon gendre. Mais si vous voyez tous les cadeaux qu'ils ont à Noël, mais c'est à pleurer. C'est à pleurer de tristesse. Ils ne savent plus où mettre les cadeaux. Il faudrait une pièce rien que pour les jouer. Et on est toujours comme ça, dans une marche en avant. Je voyais un reportage. Je crois que la moyenne nationale par cadeau, c'est 300 euros. Je me dis, mais... Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Bon, c'est peut-être par famille, je ne sais pas. Hein. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tous les cas, quand on voit les chiffres, les inégalités que cela entraîne. Vous imaginez les enfants qui reviennent à l'école, là, après les vacances de Noël ? T'as eu quoi, toi, à Noël ? Ah ben, moi, j'ai eu... Le dernier truc de Lego, là, qui ça coûte une fortune, truc à construire. Et l'autre, bah, moi, j'ai eu un petit jouet en bois. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Les uns vont recevoir des ordinateurs dernier cri, téléphones dernier cri, une voiture pour Noël. Et d'autres n'auront rien. Ça, c'est ce que font les hommes. L'homme fait de Noël des temps de repas fastueux, où on tombe dans les excès de toutes sortes, excès de table, excès d'alcool, etc. Et avec tous les effets pervers que ça a également. Voilà ce que font les hommes. Vous voyez sur l'affiche, hein, le contraste sur chaque diapo que j'ai mis, le contraste. Hein. D'un côté, des gens qui vont avoir... à en vomir, hein, tellement ils auront de mets sur leur table, et d'autres qui n'ont rien. C'est ça le Noël que Jésus a voulu ? Je crois pas. Est-ce que vous connaissez ce mot? Je rassure les Nathalie, ça ne vous concerne pas. Alors, d'après vous? C'est la phobie de Noël. Donc c'est une maladie qui n'est pas encore répertoriée, mais qui est traitée par les médecins, les psychologues, les psychiatres. Parce qu'il y a en France, écoutez bien, 3 personnes sur 10 qui est en dépression, dans un état d'anxiété pendant les fêtes de Noël. 3 personnes sur 10. Ça veut dire que vous voyez, nous, on est à peu près 200. Si on est 200, il y a 60 personnes au milieu de nous qui vivent mal Noël. Et je pense qu'en tant que chrétien, il faut qu'on fasse attention de ne pas passer à côté. D'être là à nous réjouir et la banane jusqu'aux oreilles alors que des gens à côté sont dans la souffrance et vivent mal ces moments. J'aimerais vous répéter encore, ce que l'homme fait est imparfait, mais ce que Dieu fait est parfait. Amen. Si vous tournez vers le Noël des hommes, vous serez heureux, mais vous en vivrez les effets pervers ou vous serez malheureux parce que vous n'avez pas accès à cela. Mais si vous vous tournez vers le Noël de Dieu, alors même au milieu de l'épreuve, au milieu du deuil, au milieu de la solitude, vous pourrez trouver un réconfort si vous vous focalisez sur la personne de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler du Noël de Dieu. D'abord, vous répétez ce que vous avez entendu ce matin. La chance que nous avons, c'est de ne pas fêter Noël une fois par an. Nous marquons le coup par rapport à ceux du dehors. Mais nous, nous faisons Noël tous les dimanches. Si vous avez envie de vivre Noël toute l'année, vous venez ici. Hein. Le vrai Noël. Venez ici ou venez dans une église comme celle-là où tous les dimanches, on célèbre ensemble Noël. Et on ne se dit pas, oh, on va attendre le 25 décembre pour aller à l'église. Parce que ça aussi, c'est ce qu'ont fait les hommes. Combien de personnes je connais qui ne vont à l'église que pour Noël ou pour Pâques? C'est ça à quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à vivre ces choses tous les jours de notre vie. Le vrai Noël, c'est pas le faste, c'est pas la table dressée, c'est pas la famille, c'est pas tout cela. Le vrai Noël, c'est Jésus qui vient à nous humblement, dans sa plus grande humilité. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, on va lire juste les versets 5 à 7, on lira le verset 8 plus tard. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de roi, non, de serviteur, en devenant semblable aux dieux, aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Quelle grâce, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on ne doit pas être reconnaissant envers Jésus? Je prends toujours, quand je l'explique aux enfants, cette image d'un roi qui vivrait dans un palais, qui accepterait de venir dans la rue comme un SDF. Vous vous rendez compte le contraste qu'il vivrait? Il avait le faste des palais. Il avait des gens à son service, tout qui brille, tous les dernières télés, les machins, les trucs, tout le confort, l'électricité, l'eau, tout. Et du jour au lendemain, il accepte de vivre dans la rue sans plus rien. Ben, vous voyez cette image, elle est forte, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'a fait Jésus. Passer du ciel sur la terre, passer d'être un dieu, et revêtir un corps d'homme, mais c'est juste quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. À quel point Dieu s'est humilié au travers de son fils Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 58, il est dit, Jésus répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ça n'a pas duré juste le temps de la naissance, hein, cette précarité dans laquelle Jésus a vécu. C'est toute sa vie qu'il a vécu comme un simple homme, sans le faste qu'on pouvait lui promettre en tant que le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il est dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu », c'est Jésus qui parle, « non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Amen. Et je reviens à Philippiens 2 qu'on a lu tout à l'heure, où on a lu « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, etc. » Et on a dit « Il a paru comme un simple homme. » Et à la fin, il est dit ceci, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et bien sûr, parler de Noël sans parler de la croix, c'est inutile. Parce que cette venue du Sauveur, dès le départ, elle avait un but. La destinée de Jésus était tracée dès le moment où il est venu sur terre, bien avant même. Il était destiné à mourir sur une croix. Waouh, super d'être le Messie, l'envoyé de Dieu. Hein. Il va accepter cela, pourquoi ? Parce que nous en avions besoin. Nous en avions besoin. Il est appelé l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé. Amen. Et avant que Jésus vienne, on offrait un agneau pour obtenir le pardon de ses péchés. Il fallait que cet agneau soit parfait, sans défaut. Mais ça restait un agneau. Et un agneau même parfait, sans défaut, c'est pas la perfection. Il fallait que le Fils de Dieu vienne pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est pour ça qu'il a accepté. Il n'a pas cherché son propre intérêt, il a cherché le nôtre. Amen. Il n'a pas cherché. Est-ce que Jésus avait intérêt à changer de nature, de passer d'une nature divine à une nature humaine? Il avait intérêt à faire ça? Aucun intérêt. Est-ce qu'il a intérêt à mourir sur une croix, à souffrir tout ce qu'il a souffert, non seulement physiquement, parce que mourir crucifié, c'est certainement un des supplices les plus terribles, mais pas seulement physiquement, parce qu'on appuie souvent sur cette souffrance physique, mais la pire souffrance qu'a vécu Jésus, c'est qu'il a porté tous nos péchés. Les péchés du premier homme jusqu'au dernier homme qu'il y aura sur cette terre. Tout ça, il le prend sur lui. Combien nous voulons être reconnaissants, mes frères et sœurs. Je reprends juste les paroles avant de conclure d'un chant que les plus anciens connaissent. Un chant qui dit ceci. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Je conclus. C'est parce que Jésus est venu dans cette attitude d'humilité qu'il peut être auprès de ceux qui sont malheureux. C'est sa mission. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur cette venue du Christ. Et Jésus, qui est rentré à un moment donné dans une synagogue dans la ville de Nazareth, a ouvert le rouleau d'Ésaïe. Et il a lu ceci, on le lit, c'est encore dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour prendre soin de ceux qui sont heureux, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont une belle famille. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen ? Cette parole, elle est accomplie. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vous invite à incliner vos têtes. On va prier ensemble. J'aimerais m'adresser d'abord à vous qui êtes heureux de fêter Noël. Et ne culpabilisez pas pour cela. Hein. Si vous avez la chance d'avoir des bons préparatifs et d'avoir en vue une belle fête de Noël, que Dieu soit béni. Mais pensez à ce message de ce matin. La Bible dans son entier nous appelle à la sobriété. Peut-être certains sont appelés à réviser ce qu'ils ont prévu, au moins en partie, interpellés par ce message. N'est-ce pas un moment où nous disons nous devons être des témoins ? Mais être des témoins en tant que chrétien dans ce temps, c'est refuser cette démesure, ces excès. Et peut-être même aller plus loin en disant « je vais inviter à ma table quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est dans le deuil, quelqu'un qui souffre ». Est-ce que vous avez pensé à le faire ? Est-ce qu'en tant que chrétien, vous ouvrez votre table à des personnes qui sont seules ? C'est ça, être un témoin. C'est pas juste dire « oh, il y a une bonne nouvelle, Jésus est né ». Non, mais il faut poser des actes concrets, mes frères et sœurs. Et vous avez encore le temps, c'est mardi soir, c'est mercredi, d'inviter des personnes à votre table. Je vous assure que c'est bénissant. Je vous assure que c'est une grâce de pouvoir le vivre. Amen. Pour vous qui êtes malheureux, il y a forcément des gens qui sont malheureux au milieu de nous ce matin. Peut-être vous êtes angoissé, déprimé. J'aimerais vous dire que le Seigneur n'est pas un Dieu lointain. Le Seigneur n'est pas dans ce faste, dans toutes ces choses qui sont organisées par les hommes. Mais le Seigneur, qui lui-même, on l'a vu, n'avait pas d'endroit pour poser sa tête, qui a vécu lui aussi dans une grande précarité. L'auteur d'Épistle aux Hébreux nous dit qu'il a subi les mêmes choses que nous et qu'il peut compatir. Il peut comprendre ce que nous vivons. Et il te comprend dans ta détresse ce matin. Il te comprend parce que tu as traversé le deuil, parce que tu es seul, délaissé de tous, parce que peut-être ta famille t'a rejeté, peut-être que ta famille est loin. Le Seigneur te voit. Il est rempli, ému de compassion pour toi. Le Seigneur veut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Je voudrais vous inviter vraiment à la prière. Toi qui as besoin de retrouver de la joie dans ces moments, cesse de regarder le Noël des hommes. Parce que ça va t'attrister. Regarde le Noël de Dieu. Regarde à Jésus. Tu n'auras pas de cadeau ? Mais j'aimerais te dire que tu as reçu le plus beau cadeau, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir, qui est inestimable. Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te guérir ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? J'aimerais vraiment que ceux qui ont été interpellés soient sérieux dans ce moment et se tiennent devant Dieu. C'est un moment important. Moi, je crois qu'on peut repartir différent. Peut-être que vous n'aviez aucun espoir d'avoir de la joie dans ces temps de Noël. Moi, je vous dis que vous pouvez partir en joie ce matin si vous changez de regard sur Noël, si vous regardez le bon Noël. Amen. Le Seigneur voit tes difficultés, les difficultés dans ton couple, les difficultés dans ta relation avec ton père, avec ta mère. Il voit tout ça et il veut poser sa main sur toi ce matin. Il veut te fortifier. Il veut te consoler. Amen. C'est cette bonne nouvelle de Jésus que nous prêchons ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Oui, je ne veux pas me tourner devant le Noël des hommes. Il ne m'apporte rien de bon. Mais je veux te bénir pour le Noël de Dieu. Ce cadeau que tu nous as envoyé.
ce Messie qui est toujours vivant, qui est là et qui nous a rapprochés de toi. Tu n'es plus un Dieu lointain, tu n'es plus un Dieu qui fait peur. Tu es un Père aimant, proche de nous, compatissant. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous qui avons la chance de passer de bonnes fêtes. Seigneur, donne-nous la sagesse et la sobriété dont nous avons besoin. Donne-nous aussi un cœur ouvert pour accueillir. Au nom de Jésus, je te le demande. Fais ce miracle en nous, nous en avons besoin. Nous sommes des hommes corrompus, égoïstes, matérialistes. Si tu ne viens pas par ton esprit, comme le dit l'apôtre Paul, viens renouveler notre intelligence, Seigneur. Nous t'en supplions, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous voulons que le Saint-Esprit dirige nos vies. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je veux te prier, nous prions ensemble pour tous ceux qui sont malheureux là dans cette salle ce matin, en dehors de cette salle, de ce que nous connaissons. Seigneur, s'il te plaît, viens poser le baume dans ces cœurs meurtris. Seigneur, je peux te le demander parce que je sais que toi, tu le fais. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer la tristesse de ces personnes en joie, mais je sais que toi, tu peux le faire. Oh Seigneur, bénis-les, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire, Seigneur.